Et on va prier l'Esprit Saint parce que voilà, si ce que je dis est pas très correct, on va espérer que l'Esprit Saint complète et corrige ce que je vais pouvoir raconter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, tu es le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Voilà, alors... Alors, voilà, c'est la soirée, je fais tout seul. Donc, je suis le père Maxime Derberg, mais en fait, on a très peu parlé au téléphone, donc je ne sais pas si... Voilà, je pense que... Voilà. Mais c'est parce que Blandine voulait me laisser travailler. Donc, Blandine m'a appelé pour me demander de vous parler ce soir de l'homme à l'image de Dieu. Donc, je suis prêtre de Paris, donc Maxime Derberg, prêtre de Paris depuis 5 ans. J'ai été en paroisse 3 ans dans le Marais, et puis je suis maintenant à Saint-Charles-de-Monceau dans le 17e. J'ai demandé à être détaché donc pour finir ma deuxième thèse. Donc j'ai fait une première thèse en histoire de l'art sur la peinture espagnole du 15e siècle, début 16e, voilà, dans la ville de Valence. Et puis maintenant donc, je fais une thèse sur les images matérielles, voilà, et la place des images matérielles dans l'édifice de la foi. Voilà,
donc, tu es un archicule aussi.
Et je suis archicule aussi, voilà. Bien, voilà. Voilà. Oui, mais j'ai oublié. Puis bon, c'est, comme on est entre nous, j'y pense pas. Voilà. Voilà, et donc je fais une thèse, donc là maintenant, sur les définitions des images. Hein, l'Église a pensé à détruire ces images. Enfin, c'est pas tellement l'Église, mais il y a eu une tentation, voilà, de détruire les images, ce qu'on appelle la crise iconoclaste au 8e siècle. Et à cette occasion-là, l'Église va définir les images dans un rapport avec la parole de Dieu. Et donc moi, j'étudie cette définition des images donc, en dogmatique. Voilà, et du coup, à partir de là, je cherche à édifier, voilà, ça semble toujours un peu grandiloquent, mais une théologie des images matérielles et une théologie des images à travers ça. Et même un petit peu une théologie de l'homme-image. Donc à la fin, je ferai peut-être un peu allusion à quelques hypothèses voilà, qui sont au cœur de mon travail. Alors, pour ce soir, donc je vais essayer de ne pas vous parler trop longtemps pour que vous puissiez avoir du temps pour poser des questions. Voilà, on m'a demandé de parler de l'homme à l'image de Dieu, qui est une affirmation qui est d'abord une affirmation biblique. Donc il y aura en gros 3 parties assez vagues et un peu inégales dans l'exposé que je vais vous faire. Première partie qui sera un peu sur la situation, le problème biblique qui est posé dans l'Ancien Testament par l'affirmation que l'homme est image de Dieu. Ensuite, l'accomplissement de cette affirmation qui est en même temps une question dans le Christ. Et à partir de là, comment l'anthropologie chrétienne se regarde toujours dans le mystère du Christ qui lui-même va être affirmé comme étant l'image du Dieu invisible. Donc voilà, comment l'homme est image, un peu première question. Ensuite, le Christ, image du Dieu invisible, et notre reflet dans le Christ. Et puis à la fin, je voudrais faire quelques propositions à partir de ce que j'étudie. Donc vous aurez un truc qui est un peu un work in progress, voilà, et où vous serez autorisé à intervenir et à critiquer, voilà, pour que ça m'aide éventuellement. Comme ça sera un échange de bons et loyaux services. Voilà. Donc je pars d'une définition de l'image qui est un peu vague, et volontairement on peut penser à l'image à la fois donc parce qu'elle est affirmée bibliquement, pour nous ce sera le point de départ de cette question de l'homme comme image de Dieu, mais l'image a aussi un arrière-plan philosophique. Nous savons tous ou croyons savoir ce que c'est qu'une image. Elle implique une certaine mise en visibilité, mais de quoi exactement? Elle reproduit quelque chose qu'on a déjà vu ou pas? Est-ce que quand l'homme reproduit Dieu, est-ce qu'on a vu Dieu? Ça va être une des questions qu'on va se poser. Elle exprime donc peut-être un original, en tout cas elle est une certaine expression, une manifestation visible, dans le visible, de quelque chose. Voilà, on va dire, je vais m'arrêter là, en fait c'est volontairement très basique, mais le propre de l'image, dans une certaine mesure, c'est de montrer, c'est de faire apparaître ce qui est. Voilà, et donc après, il y a des différentes options philosophiques pour en parler, mais mon parcours à moi pour ce soir, parce qu'on pourrait se perdre dans des dizaines de définitions philosophiques de l'image, c'est vraiment de suivre le fil biblique, patristique, et ensuite d'avoir une proposition à partir de Nicée 2, ce qui me permettait de vous faire une présentation à peu près cohérente de cette question. Au départ, donc bibliquement, tout part d'une affirmation qui vient très très vite dans le livre de la Genèse, dans le premier récit de la création, le sixième jour, vient ce verset absolument décisif, Genèse 1, versets 26 et 27. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et puis ensuite, il continue et qu'il domine sur la création, etc. Et puis le verset 27 poursuit « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. » Alors à partir de là, voilà, il y a cette affirmation qui est déjà une affirmation un peu exorbitante, sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Mais si je m'arrête simplement sur ces versets, déjà le verset lui-même se dédouble. On nous dit que Dieu fait l'homme. Dieu dit au départ, faisons l'homme à notre image, Betselem en hébreu, selon ou Eikon en grec, selon notre ressemblance, que Demut en hébreu ou en grec, Homoiosis. C'est-à-dire que cette manière que Dieu a de créer l'humanité, Adam, à son image, elle va être dédoublée dans une sorte d'endiadine. Donc l'endiadine, c'est une formule littéraire qui, pour ceux qui ne sont pas des littéraires, qui dit une chose à partir de deux concepts ou à partir de deux images qui sont réunies ensemble. Mais là, en gros, donc Dieu se projette quelque chose qui est donc de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc il y a une forme de dédoublement. Et quand Dieu crée effectivement l'humanité, dans le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, donc l'homme Adam, à l'image de Dieu il le créa, donc Betselem, donc dans cette image. Mais donc là, vous aurez repéré que dans la deuxième partie, dans le verset 27, on ne parle plus de la ressemblance. Voilà, il le créa à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle, Zahar Venekeva, il les créa. Donc une humanité une, partagée par le mystère de la différence entre l'homme et la femme. Et en même temps, cette humanité est affirmée comme étant image de Dieu. Voilà, donc je me suis contenté pour le moment simplement de poser cette distinction. Mais d'emblée, ce qui peut être important à dire, c'est que dans la manière de formuler ça, bibliquement, dans la possibilité même d'écrire ce verset, dans le livre de la Genèse, qui est un livre dont on le pense de rédaction relativement tardive dans les âges de rédaction de la Bible, puisque vous savez, je pense que l'Ancien Testament n'a pas été écrit en commençant par la Genèse et en terminant par le livre de Malachie, mais a été écrit à différentes époques. Et donc, peut être une première interrogation, c'est le caractère déjà exorbitant de cette affirmation quand on connaît le contexte d'écriture du texte biblique. Le mot tselem peut être parent dans le Moyen-Orient ancien d'un autre mot, donc qui va dire aussi l'image, le salmou de la Babylone ancienne. On peut aussi le comparer à d'autres termes qui vont dire l'image en hébreu, fessel, macera, mais j'y reviendrai un peu après. Et pour vous donner un contexte assez basique, mais et sur lequel je ne suis absolument pas spécialiste, hein, donc, de toute façon je suis à peu près spécialiste d'à peu près rien de ce que je vous parle, donc ça sera le but, c'est plus une fresque voilà, qu'autre chose. Dans ce Moyen-Orient ancien, dans ce contexte dans lequel la Bible est écrite, donc dans l'Atraassis, qui est une épopée babylonienne, le dieu Nintu va façonner l'homme avec le sang d'un autre dieu, hein, Vehilu, qui va être mêlé à de l'argile. Hein, et cette fois-ci, ça nous fait penser au deuxième récit de la Genèse, où on nous dit que Dieu créa l'homme, hein, en prenant de l'argile du sol et en lui insufflant une haleine de vie, ce qui est quand même très différent que de créer à travers un mélange, après un combat des dieux, en mélangeant du sang avec de l'argile. Mais c'est simplement pour vous donner le contexte d'écriture, où dans ce contexte d'écriture, on va avoir d'autres histoires qui racontent des récits de la création de l'homme, à partir du fait que Dieu va créer l'homme comme dans une certaine mesure, à la manière dont on créerait une statuette en la façonnant à partir de l'argile. Donc comme on ferait une statuette à partir de l'argile, dans la Traassis, Nintu crée l'homme un peu de cette manière-là. Et dans une autre épopée, l'Enuma Elish, Marduk, de la même manière, façonne l'homme avec le sang d'un autre dieu, bon, Kingu, qui est mêlé à de l'argile. Voilà. Il va y avoir ça dans ce contexte du Moyen-Orient ancien, une idée donc, de l'homme créé par les dieux à la faveur d'un combat des dieux et de la mort d'un dieu. On va créer l'homme à partir donc, de ce sang qui va être mêlé à l'argile, avec toujours cette idée et cette recherche d'expliquer, hein, qui est l'homme, en fait. Et donc, le penser comme une image qui est façonnée un peu comme on façonnerait une statuette, mais qui est associée à quelque chose de divin, ça va chercher à dire déjà quelque chose de notre être. Comprendre, et c'est ce que bon, dira un peu Aristote dans d'autres concepts, hein, dans d'autres contextes, hein, le propre de l'homme, dit Aristote, c'est d'agir en immortel. Donc il y a cette conscience qui là va être recherchée bibliquement de quelque chose qui en l'homme le dépasse lui-même, et donc comment rendre compte de cela, hein, comment rendre compte de cette création. Et donc les hommes vont donc on va penser cette création de l'homme comme, hein, une création, comme on créerait une image, une statuette. Mais inversement, dans ces civilisations du Moyen-Orient ancien, eh bien les hommes vont façonner le corps des dieux. Alors ça dépend, parce que parfois il y a juste des représentations très très basiques, hein, mais il y a une manière de représenter les dieux, de façonner les dieux. Et évidemment, là ce sont des artisans qui vont créer le corps qui va être le corps du dieu dans le temple. Et donc là, je me réfère notamment aux études de Daniel Barbu, hein, dans un livre qui s'appelle « Naissance de l'idolâtrie », et où il va expliquer que les hommes vont façonner le corps du dieu, hein, dans ces civilisations du Moyen-Orient ancien, et puis après l'avoir façonné, il va y avoir un ensemble de rites, hein, que donc, ce chercheur appelle une choroplastique rituelle, c'est-à-dire une manière un petit peu de façonner le dieu, et ensuite de créer tout un ensemble de rites à travers lesquels notamment ceux qui ont façonné le dieu vont, au cours d'une forme de liturgie, jurer, prêter serment qu'ils n'ont pas fait le dieu, voilà, mais que le dieu a été fait par les dieux qui gouvernent leur art, hein, donc une idée que le dieu se façonnerait lui-même dans une pour effacer, dans une certaine mesure, hein, cette ascendance, en réalité, humaine de la figure du dieu. Hein, donc le Salmou...
C'est de l'inspiration.
En fait. Voilà, mais en fait, il y a une idée de l'inspiration, exactement, voilà, qui est déjà présente dans le monde païen. Hein, mais donc la Bible, hein, donc va à la fois va baigner dans ce monde-là, et en même temps, de manière très très forte, elle va s'opposer à cette dimension-là. Et nous avons des textes bibliques, donc vous pourrez aller voir vos Bibles pour faire un peu contenu, je ne vous cite pas forcément les textes bibliques, puis surtout j'ai oublié ma Bible, ça c'est mon alibi, je vais quand même lire au moins le texte peut-être d'Isaïe, mais donc je vous donne les références. Isaïe, donc 44, versets 9 à 20, et puis le psaume 113b, versets 3 à 8, qui vous donne des bons exemples. Le psaume 113b, c'est facile, hein, il parle de l'idole en disant « Les idoles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et elles n'entendent pas, elles ont une langue et elles ne parlent pas. » En bref, elles ont toute ce qui serait la possibilité, justement, Hein, ce qui fait que l'homme, lui, est un être animé qui a reçu une haleine de vie. Bah, à la différence de l'homme, ces images, elles, n'ont pas d'haleine de vie. Hein, elles sont présentées dans une... justement, il y a un contraste. En fait, l'homme est plus que l'idole, puisque lui, l'homme a une bouche et il parle, l'homme a des yeux et il voit. Et donc, il y a une manière de tourner les idoles en dérision. Et puis, je vais vous citer ce texte d'Isaïe, qui est vraiment un texte majeur de ce point de vue-là. Voilà, Isaïe 44, 9 à 20. Néant tous ceux qui modèlent des idoles, leurs meilleures œuvres ne servent à rien. Elles sont leurs témoins qui ne voient ni ne savent rien, en sorte qu'ils sont couverts de honte. Qui a façonné un dieu et fondu une idole qui ne peuvent servir à rien? Voici que tous ces fidèles sont couverts de honte, ainsi que ces artisans qui ne sont que des hommes. Qu'ils se rassemblent tous, qu'ils comparaissent, qu'ils soient remplis à la fois d'épouvante et de honte. Le forgeron fabrique une hache sur des braises, il la façonne au marteau, il la travaille à la force de son bras. Et puis il a faim et perd sa force, n'ayant pas bu d'eau, il est épuisé. Le sculpteur sur bois tend le cordeau, trace l'image à la craie, l'exécute au ciseau et la dessine au compas. Il l'exécute à l'image de l'homme, selon la beauté humaine, pour qu'elle habite une maison. Il a coupé des cèdres, il a choisi un chêne et un térébinthe qu'il a laissé croître pour lui parmi les arbres de la forêt. Il a planté un pin que la pluie a fait grandir. Les hommes le destinent au feu, il en a pris pour se chauffer, il l'a allumé et a cuit du pain. Mais aussi, il a fait un dieu pour l'adorer, il a fabriqué une idole pour se prosterner devant elle. Il en avait brûlé la moitié au feu, sur cette moitié il a fait rôtir de la viande, la mange et se rassasie. En même temps, il se chauffe et dit « Ah, je me suis bien chauffé et j'ai vu la flamme ». Avec le reste, il fait un dieu, son idole, et il se prosterne devant lui, l'adore et le prie et dit « Sauve-moi, car tu es mon Dieu ». Donc vous voyez cette manière qu'a la Bible de montrer l'origine justement de l'idole et de tourner en dérision ce qui a été mis en perspective avec le fait que le bois qui a servi à faire l'idole a d'abord servi à cuire un petit peu de viande et à se dire que finalement la vie n'est pas si difficile. Voilà, donc vous voyez ce contexte où à la fois donc, les hommes vont être pensés comme étant créés comme des images, et d'un autre côté, les dieux étant créés eux-mêmes comme des images. Donc une sorte d'échange entre la manière qu'ont les hommes de penser leur propre création et la manière qu'ils ont eux-mêmes de créer leurs dieux et leurs idoles. Et donc évidemment, là-dessus, il y a dans l'affirmation biblique de l'homme qui est créé à l'image de Dieu, il va y avoir cette rupture dans le fait que si Israël, et puis plutôt si l'homme a bien été façonné à l'image de Dieu, eh bien il est à l'image, et c'est ça qui est très décisif et qui nous fait comprendre la force de cette affirmation dans la Bible, parce que nous on la lit au début, donc on se dit bon ça paraît un peu normal. Mais pour ceux qui ont écrit ça, qui en sont venus à affirmer ça, il y a un vrai parcours, un vrai chemin. Et ce qu'ils vont finir par affirmer, c'est que l'homme est à l'image de celui dont on ne fait pas d'image. Et ça, pour le coup, là, vous avez deux autres manières de le dire. Donc, dans Isaïe, je n'ai pas noté les versets, mais peut-être qu'on pourra demander à Florent, qui doit être une Bible vivante, mais où Dieu dit à l'homme, quel temple me ferais-tu, la terre et l'escabeau de mes pieds? Donc, l'idée de l'impossibilité de ramener Dieu dans un espace et un temps, et donc cette incommensurabilité divine d'un côté, et puis de l'autre, l'affirmation d'Exode au chapitre 20, verset 4, mais qui est dans les différentes versions du Décalogue, « Tu ne te feras aucune image, donc aucune idole, aucune image, ou fesselle ou macera », donc d'autres manières pour désigner les images, de ce qui est dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessus la terre. Donc, ceux qui affirment, à un moment donné, que l'homme est image de Dieu, affirment d'abord de manière très très forte, même s'il y a des degrés dans l'histoire biblique, et que la possibilité de dire que Dieu ne peut pas être représenté, qu'il n'a aucune image qui est faisable de lui, qu'il est purement transcendant, c'est aussi un chemin biblique, les hommes n'ont pas trouvé ça forcément immédiatement. Il y a aussi un chemin à l'intérieur de la révélation pour comprendre cette transcendance de Dieu. Mais il y a néanmoins cette affirmation que Dieu est celui dont on ne peut faire aucune image. Et alors qu'on affirme ça de manière si puissante, on va pourtant dire que l'homme est à l'image de Dieu. Voilà. Donc c'est juste pour vous faire peser d'abord ce qui est à la fois une affirmation extrêmement forte et qui n'est pas sur le même plan par rapport aux autres civilisations du Moyen-Orient ancien de la Bible, affirmation extrêmement forte, et en même temps une forme d'énigme, hein, puisqu'on affirme que Dieu s'est donné une image et qu'on l'affirme en utilisant des mots qui ont jusque-là servi aussi à désigner les autres dieux, et en même temps en ayant nié qu'il soit possible de représenter Dieu. Donc à partir de là, on va se retrouver devant cette question de la possibilité d'une image de Dieu. Voilà, donc je vais un petit peu vite, parce qu'il faut aller un peu vite, mais cette question, elle va trouver un aboutissement, bien entendu, pour nous chrétiens, dans la même révélation, au sein de l'unique révélation qui fait du testament ancien un testament nouveau pour nous, c'est évidemment dans l'incarnation, et dans le fait que Dieu lui-même s'incarne, devienne l'un de nous en Jésus-Christ, et à partir de là, évidemment que ce théomorphisme, on va dire, de l'homme, puisque l'homme, c'est pas l'homme cette fois-ci, c'est pas Dieu qui est créé de manière anthropomorphique, mais bibliquement, c'est l'homme qui se pense comme étant une image de Dieu, mais d'un Dieu qui lui échappe infiniment. Et donc, pour la révélation chrétienne, le sommet de l'image, et je reviendrai ensuite à nous autres pauvres humains qui sommes images de Dieu, ceux qui sont les pèlerins en chemin avec le Christ, et précédant le Christ aussi d'ailleurs, mais je vais commencer, c'est peut-être un peu plus simple pour aller vite, de partir directement en regardant le lieu où l'homme et Dieu se rencontrent de la manière la plus incandescente, c'est-à-dire dans le Christ. Puisque Dieu, donc, se fait homme, Dieu se fait chair, il devient l'un de nous, et donc cette affirmation biblique sur le mystère qu'il y a en l'homme, un reflet de Dieu, eh bien, va se dire de manière particulière donc, dans l'incarnation. Et là, je vous citerai simplement deux versets qui viennent tous les deux, même trois versets, qui viennent tous de l'Épître aux Colossiens. La grande affirmation paulinienne, selon laquelle le Christ est l'image, donc Colossiens 1,15, l'image du Dieu invisible. Donc à partir de là, on va regarder dans le Christ le mystère de Dieu entièrement révélé, mais révélé d'une manière qui dépasse toutes les révélations de l'Ancien Testament, donc associé d'ailleurs à, j'aurais peut-être dû le dire, à cette impossibilité de l'image de Dieu, il y a aussi cette idée qu'on ne peut pas voir Dieu dans l'Ancien Testament. Même si en réalité on n'arrête pas de le voir. Parce qu'on n'arrête pas de dire on ne peut voir Dieu sans mourir, mais bon, Dieu se montre quand même à Moïse, Isaïe dit « Oulala, j'ai vu Dieu, je suis un être aux lèvres impures », mais enfin n'empêche qu'il voit quand même Dieu. Voilà. En tout cas, on n'arrête pas d'avoir des théophanies, tout en n'arrêtant pas de dire qu'on ne peut pas voir Dieu. Et le plus important étant dans l'Exode, où les 24 anciens montent, on nous dit carrément « Ils mangèrent et ils virent Dieu, ils mangèrent et ils burent, et puis ils redescendirent de la montagne ». Ce qui veut dire qu'il y a des affirmations à l'intérieur même de l'Ancien Testament, qui, du point de vue de l'Ancien Testament lui-même, ont quelque chose d'un excès. Voilà, d'un excès qui est aussi la marque d'une énigme et d'une attente. Et cette attente, donc, elle va se combler, ou plutôt se remplir pour nous, dans le mystère du Christ, et dans cette affirmation qu'il est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1,15, ou encore Colossiens 2,9. Là, je voudrais vous citer le verset. « En lui habite corporellement, somaticos, toute la plénitude de la divinité. » Et dernière affirmation que je tire de l'Épître aux Colossiens, bon, il y a d'autres affirmations pauliniennes, mais là, pareil, je préfère me limiter pour que nous ne nous dispersions pas trop, ou pas plus que je ne le suis déjà. Paul affirme ensuite dans l'Épître aux Colossiens, « Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Voilà, donc dans cette épître, dans ces versets de l'Épître aux Colossiens, ce nous, ce dont je voudrais vous parler maintenant, qui est un peu plus sur un parcours patristique rapide, essentiellement christologique, hein, donc un parcours où on regarde le Christ, on jette les yeux sur ce qui est la révélation suprême de Dieu dans l'homme, le Christ. Voilà. Et nous avons cette affirmation, le Christ est l'image du Dieu invisible. Donc comment est-ce que le Christ est l'image du Dieu invisible? Nous allons voir qu'il y a eu plusieurs manières de le penser, hein, dans l'histoire, dans les premiers temps de l'Église. Ensuite, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Donc il y a la question aussi de cette image qui serait liée à la question du corps. Et le troisième verset, que nous dit le troisième verset, c'est en fonction de cette image, à l'image de son Créateur, révélée dans le Fils unique, eh bien nous renouvelons pour laisser l'homme ancien, pour vivre une vie de conversion, une vie chrétienne, et pour tenter de devenir toujours plus à l'image de notre Créateur. Donc le verset donc biblique de Genèse 1, 26-27, dont je vous avais parlé, trouve un accomplissement en Colossiens 1, 15. Et en même temps, il nous pose, il a tout de suite posé des difficultés, parce que ce terme de l'image, beaucoup posé de questions donc ceux qu'on appelle les pères de l'Église, hein, les premiers, ceux qui se sont chargés dans une certaine mesure de faire une première formulation théologique à partir du donné biblique, de la révélation et surtout du mystère central de Jésus-Christ, de la personne de Jésus-Christ. Et donc ils vont interpréter, hein, cette image de Dieu rendue visible de manière assez différente selon leur manière de chercher à comprendre ce que nous dit ce verset biblique. Vous allez avoir une première tendance qu'on pourrait mettre sous le patronage de saint Irénée de Lyon, hein, donc deuxième siècle, voilà, vous connaissez tous, et qui lui va voir cette image visible du Dieu invisible. Alors, pour vous dire d'abord ce qui est commun, hein, à l'ensemble des options théologiques que je vais vous décrire, ce qui est commun, c'est que ce verset, Dieu créa l'homme à son image, selon la ressemblance, tous vont l'interpréter en disant, nous ne sommes pas directement image de Dieu. L'homme est créé à l'image, et vous avez entendu le dédoublement dans le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Donc nous sommes créés selon l'image, et les pères vont tous affirmer, il y a une image parfaite de Dieu, ça va être le Fils unique. Et nous sommes créés selon l'image, et après que veut dire d'abord qu'il est l'image parfaite? Et en quoi il est l'image? Et en quoi nous sommes créés selon l'image? Ça va? Ça va? C'est pas trop chinois? C'est bon? Donc, première option, sous le patronage d'Irénée, nous sommes créés à l'image du Dieu du Christ, image du Dieu invisible. Le Christ est l'image du Dieu invisible en tant qu'il est le Verbe incarné. Alors, première option, c'est de se dire, c'est parce que le Christ s'incarne, parce que le Fils devient homme, hein, qu'il donne à l'homme la possibilité d'être pleinement, de révéler pleinement qui est Dieu. C'est-à-dire qu'il vient vivre, et ça c'est dans ce qu'on appelle le mystère de l'union hypostatique, hein, ce mystère, hein, du fait qu'en Christ, hein, dans la personne divine du Christ, eh bien, le Christ a assumé une nature humaine, donc pour le dire d'une manière peut-être différemment accessible, le Christ, le Fils, hein, qui de toute éternité est engendré par le Père, hein, va vivre son mystère, hein, il va le vivre humainement, hein, en assumant totalement une humanité. Donc, pour essayer de vous donner quelque chose d'un peu concret, une sorte de chose qui vous aide peut-être à entrer plus profondément dans ce mystère, oui, le fait même de se recevoir en permanence, hein, du Père, ça le Christ, le Fils le vit de toute éternité dans le mystère de la Trinité. Mais quand le Fils s'incarne, hein, dans une humanité, Eh bien, Jésus qui marche hein, sur les routes de Galilée, à la fois il est vraiment Dieu, et en même temps il va recevoir, hein, dans le mystère de sa temporalité humaine, chaque instant, comme lui étant donné par le Père. C'est un peu comme, et c'est d'ailleurs ce que le Christ va nous dire, un peu de manière évangélique, hein, demain s'occupera de lui-même, voilà, regardez, laissez-vous hein, donner votre vie au fur et à mesure par le Père. Donc le Christ va être cette réception qui fait de lui pas une espèce de super robot bizarre, mais quelqu'un qui va vivre, notamment par exemple, ce moment de Gethsémani, hein, où il comprend, dans le mystère de son humanité, où il entre dans le mystère de ce qui l'attend dans la Passion. Eh bien, il y a un moment de Gethsémani, et le baptême du Christ, ce n'est pas Gethsémani. Donc il y a une manière pour le Verbe divin hein, de vivre son mystère humainement. Ça va hein. Donc on pourrait se dire, voilà, de manière simple, donc il y a d'ailleurs cette première tendance de se dire, voilà, il y a cette présence hein, cette accessibilité de Dieu dans son image, hein, qui est le Fils, dans son image, image du Dieu invisible. Voilà. Mais simplement, d'autres pères, hein, notamment Origène, vont dire, mais si le Christ est vraiment l'image, et qu'il est l'image, enfin, si le Fils est l'image, et qu'il est l'image de toute éternité, eh bien, il est d'abord et avant tout, et lui va se placer vraiment, d'abord dans un enracinement proprement trinitaire, dans le mystère du Dieu unique, il va dire, bah, le Fils, il n'est pas d'abord image en tant que Verbe incarné, mais il est l'image en tant que Verbe d'abord. Donc il est l'image, il est l'image invisible du Dieu invisible. Donc il va essayer de comprendre cette expression de Dieu, enfin ce mystère interne à Dieu qui est que le Père s'exprime dans le Fils. Hein, le Père se livre totalement, et le Père est la source de l'amour dans la Trinité, et dans le don qu'il fait, le don total qu'il fait de lui-même, eh bien, il livre un autre, voilà, un mystère d'altérité à l'intérieur du Dieu unique, mais qui pourtant reste lui-même. Et donc, pour dire ce reflet, parce qu'il va être, là, la notion d'image va venir à l'aide de ça, ça veut dire, bah, une image, qu'est-ce qu'elle va être, un peu philosophiquement, elle va être bah, la même chose, avec souvent une dimension de différence. Si je me regarde dans mon miroir, ben c'est vraiment moi que je vois, mais avec un certain nombre de différences, parce que j'ai mon image inversée, il ne fait que reproduire ce que moi je montre à travers mon visage. Mais évidemment, par un raisonnement analogique, on va dire que le Fils, lui, il est l'image parfaite. Il est l'image qui est absolument égale hein, à la source qu'il exprime. Ça va, à peu près hein. Et donc, pour cette veine originienne, voilà. Maintenant, après, je vais en venir à la manière que ça nous aide, à la manière que ça donne de comprendre comment l'homme lui-même est à l'image de Dieu. C'est-à-dire que cette compréhension originienne, alors elle a l'avantage, pour bien faire comprendre, elle a l'avantage de nous faire saisir que l'image du Dieu invisible, le Christ, est absolument égale au Père. Hein. Donc il y a à la fois une identité de nature. Donc, ça, c'est peut-être Origène qui va le mieux, la veine originienne qui va le mieux le dire, parce que la veine irénéenne qui va dire que l'image, eh bien, c'est le Verbe incarné. Comme il y a déjà l'assomption de l'humanité, il va y avoir l'idée que c'est plus dans le fait d'assumer l'homme que le Christ devient image du Dieu invisible. Donc la veine originienne va permettre de mieux penser l'identité de nature de l'image. Hein. Dans une certaine mesure, la veine irénéenne, pour faire un peu basique, va permettre de mieux penser la dimension de manifestation hein, à travers une chair, à travers cette dimension corporelle hein, de la présence divine. Voilà. Et donc pour dire un petit peu comment ça pourrait s'exprimer ensuite dans la manière qu'a l'homme d'être image, la veine originienne va beaucoup dire que ce qui est image, ce qui en l'homme est l'image de Dieu, c'est ce qui va être le plus pris dans sa dimension purement relationnelle. Hein, de la relation, l'idée d'image, elle va être notamment aussi dans une imitation de l'agir divin. Hein. Et donc ça, ce que va faire Origène, c'est de le situer vraiment dans l'âme humaine. Donc, alors que chez Irénée, hein, l'homme va pouvoir être... il va y avoir un mystère de l'accomplissement de l'image dans l'âme et le corps de manière assez unie. Voilà. Et donc, ce que ça va pouvoir nous là, en quoi cela peut nous éclairer, hein, sur la manière qu'a l'homme d'être image de Dieu. Alors, c'est là que je suis obligé d'en arriver quand même à... C'est pas facile pour moi de parler de patristique, parce que celui que je connais bien, c'est Maxime le Confesseur, qui est mon saint patron. Maxime le Confesseur va faire quelque chose qui est une sorte de mix, hein, entre Irénée et Origène. Donc, il va à la fois dire que le Christ est l'image invisible du Dieu invisible, c'est-à-dire qu'il va partir de cette expression, hein, de Dieu qui s'exprime à l'intérieur de lui-même. Et il va dire qu'il se traduit, hein, donc dans le fait que le Christ, en tant que le Christ va exprimer, hein, l'amour divin qui s'exprime à l'intérieur de la Trinité et qui va être capable de l'exprimer dans sa vie et à travers un agir, voilà, qui va se donner dans sa vie et dans sa manière de se livrer. Alors voilà, je me suis un petit peu trop parti au-dessus de mes notes. Voilà. Donc pour vous dire, donc la veine originienne, elle permet de penser un petit peu que l'homme est à l'image de Dieu dans son âme, mais elle rend difficile de comprendre comment cette image s'accomplit dans notre humanité du point de vue le plus charnel. Et en revanche, ce qu'Irénée ne va pas permettre complètement de comprendre, en disant que le Christ... Irénée n'arrive pas à articuler complètement, à dire complètement en quoi le mystère de notre corporéité pourrait refléter directement une image qui serait une image invisible. Est-ce que c'est à peu près clair ou pas? Parce que c'est moi... Non, voilà. Alors, en gros, il y a en Dieu, donc il y a deux images. Hein. Dieu, oui, vas-y.
Tu vois, il y a deux questions dans l'image. Il y a l'expressivité, et puis il y a, il y a la ressemblance. Une image doit être ressemblante, mais il y a aussi une déperdition a priori. Alors, ce que fait Origène, c'est qu'il va travailler le concept d'image pour qu'il ne garde que le côté de la ressemblance. Il y aura une distinction, mais pour nous, l'image est toujours les deux à la fois. C'est-à-dire qu'elle est expressive dans la mesure même où elle se met à notre hauteur, et dans la mesure même où elle est capable de baisser quelque chose qui, en tant que tel, nous est inaccessible. Sinon, on n'aurait pas besoin d'image. Donc, Origène, il va travailler le concept d'image pour ne garder que le côté de ressemblance. Alors que Irénée, il va garder tout de suite le côté d'expressivité, mais sans du tout. Il ne va pas le nier, mais sans... du tout tellement se poser la question,
voilà.
Parce qu'à l'époque c'était pas encore les dossiers chauds, dans quelle mesure le Christ est aussi divin que le Père. Alors, si tu pars d'Irénée, c'est plus concret, tu peux dire, voilà, je vais imiter le Christ, et comme il est lui-même image, je vais être selon lui. Est-ce que tu deviens vraiment semblable au Père, en fait? Parce que c'est pas si clair que ça que le Fils, le Christ, disons, dans la mesure même où il devient image, il y a une déperdition. Donc, si tu l'imites, est-ce que ton existence est vraiment divine? Si tu gardes Origène, c'est très très beau, mais le problème, c'est que ce par quoi tu te distingues de manière évidente de Dieu, c'est par ta corporéité, et ton travail, toute la 16 et toute la vie chrétienne qui mobilise le corps, tu as du mal à la relier à l'image. Voilà. Et si j'ai bien compris, ce que fait Maxime le Confesseur, c'est qu'il, de manière assez géniale, il combine les deux.
Voilà, oui, oui. Voilà.
À la fois, tu as le plus bas, qui est le plus accessible, et tu as le plus haut, parce que tu deviens, ce qui est charnel devient divin.
Voilà. Donc vous avez un aumônier, non mais c'est génial, vous avez un aumônier génial, et vous avez en face de vous un thésar qui, bon je l'avais dit, a un petit peu de... Mais alors voilà, ça me remet complètement dans le merci, parce que ça me remet dans ce qu'était le propos au départ de... Mes notes sont pas assez... En fait, voilà, donc la ressemblance va être travaillée par Origène, et chez Irénée, on va avoir cette notion de l'image, mais avec la difficulté à relier ça à Dieu. Bon. Et ce que va faire Maxime, de manière très... voilà, effectivement géniale, c'est que lui, il va dire, quand le Christ s'incarne, à la fois il est pleinement ressemblant, il est absolument ressemblant. Il est le seul d'ailleurs qui est totalement ressemblant. Et en même temps, il devient ressemblant jusque dans le mystère de son humanité, là pour le coup la plus charnelle. Voilà. Et donc il va vivre à travers le parcours de toute sa vie, et ça pour un mystère qui va nous aider à le comprendre, c'est la transfiguration, il va dans une certaine mesure nous montrer notre humanité complètement déifiée. Non seulement il est Dieu comme étant parfaitement ressemblant, donc il est vraiment dans une égalité de nature avec le Père, mais quand il vit sa vie humaine, il nous donne de voir notre humanité dans sa fin, c'est-à-dire dans sa vocation eschatologique, dans sa vocation finale, pour le dire un peu autrement, sa vocation, l'accomplissement du dessein divin, l'eschatologie, mais qui est déjà à l'œuvre en nous, il va montrer quel est le but de l'homme, quelle est la pleine réalisation de la divinisation de l'homme par Dieu. Et quand est-ce que ça se voit? Ça va se voir dans le mystère notamment de la transfiguration. La transfiguration, dans une certaine mesure, on pourrait dire que chez Maxime le Confesseur, ça ne va pas être que derrière la nature humaine de Jésus, il y aurait une nature divine un peu cachée qui tout d'un coup, exploserait la nature humaine. Et donc on verrait tout d'un coup apparaître la nature divine de Jésus derrière son humanité. Ça va dans la lumière de la transfiguration. Ce qui va beaucoup plus tenir, il va dire que dans la transfiguration, le Christ est devenu type et prototype de lui-même. Donc l'image, elle a un prototype, elle a quelque chose qu'elle reflète, donc avec effectivement une certaine déperdition. Et là, ce qui va être montré dans le mystère de la transfiguration, c'est l'humanité même du Christ dans un mystère de sa glorification finale. Donc ce qui va être montré à l'homme, c'est que nous sommes, c'est que dans le Christ, dans le Christ qui est l'image de Dieu, eh bien, nous est montré déjà tout le parcours que nous avons à faire, d'autant plus que nous avons chuté à cause du péché, mais ce parcours à la fois de rédemption et de divinisation. Et donc, pour un chrétien, pour nous, la compréhension de ce que c'est qu'être image, ça va vraiment être d'entrer dans une ressemblance parfaite avec Dieu lui-même. C'est-à-dire que le caractère exorbitant de l'affirmation biblique dont je vous avais parlé au départ, c'est pas juste exorbitant, c'est que ça dit la folie du mystère du dessein de Dieu. C'est que nous soyons rendus pleinement divins, pleinement divinisés, et en même temps ce que va préserver la manière qu'a Maxime de penser la divinisation à travers le fait que le Christ nous montre notre fin, c'est qu'il va quand même préserver aussi la différence essentielle qui va demeurer entre nous et Dieu dont nous sommes pourtant l'image. C'est-à-dire que le Christ vient accomplir par son agir, qui est un agir à la fois divin et humain, en agissant humainement comme Dieu agit, en s'unissant. Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de Gethsémani, et Gethsémani va être ce moment crucial, en s'unissant toujours plus à la volonté de Dieu, à la volonté du Père, eh bien, il va exprimer totalement dans son humanité l'amour qui est Dieu, mais dans son humanité la plus charnelle. Et on peut dire, nous pouvons dire, que quand nous regardons la vie du Christ, eh bien, nous voyons dans le mystère de sa vie, la ressemblance parfaite de Dieu, parce que ce Christ qui était l'image invisible du Dieu invisible est devenu l'image visible du Dieu invisible corporellement. Et donc, qu'est-ce que vient faire de ce point de vue-là cette concentration sur le Christ? C'est qu'elle oriente toute notre vie, toute cette question de ce que peut être pour nous être image de Dieu, cela veut dire, et donc Maxime va situer ça dans, il va situer, si je dois dire de manière la plus particulière, le lieu de l'image en nous, il va la situer dans, on pourrait dire, la fine pointe de notre âme, qui est le lieu aussi de notre esprit, de là le lieu où nous pouvons contempler, le lieu aussi où nous avons un agir libre. Et donc, notre être d'homme, qui était fait pour s'accomplir, qui était laissé dans une certaine ouverture, hein, Dieu nous a créés à l'image et selon notre ressemblance, et la ressemblance était un peu laissée, elle aussi, comme une question. Eh bien, l'image et la ressemblance, donc déjà bibliquement, enfin, les termes ne sont pas très faciles à distinguer parce qu'ils ont à peu près le même sens, hein, et en même temps, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est distingué. On pourrait dire, hein, que la ressemblance en nous, devenir toujours plus ressemblant, c'est de mettre en œuvre notre manière d'exister, notre manière d'être nous-mêmes des personnes, hein, et de les mettre en œuvre en imitant la personne du Christ, hein, qui s'est rendu visible. Donc, c'est-à-dire Dieu qui s'est rendu visible. Si nous, et nous avons quelque chose pour le faire, hein, qui est le fait que nous avons été marqués à notre baptême par le Christ lui-même, nous avons en nous une marque du Christ qui nous rend capable d'agir exactement comme le Christ a agi. Et donc a agi comme il nous l'a montré dans son humanité, à travers sa vie humaine, mais en même temps de déployer là un agir qui est l'agir même de celui qui est Dieu, hein, du Christ. Donc de déployer un agir divin. Et donc dans une certaine mesure, on pourrait dire que la pointe à l'aboutissement de cette pensée patristique, la pointe de ce qu'est être image, hein, c'est bien de vouloir ce que veut Dieu, c'est-à-dire de vouloir le salut de tous les sauvés. C'est-à-dire, pas juste vouloir mon salut, mais faire comme entrer dans les desseins de Dieu, dans le dessein du Christ, qui veut que nous soyons tous sauvés. Hein, et donc toute notre vie, notre manière de la vivre sera une manière de devenir semblable dans le mystère de notre agir. Mais donc chez Maxime, hein, il va situer l'image dans la fine pointe de l'âme, qui est donc une pointe spirituelle, et en même temps il va tenir, hein, dans certains moments de ses écrits, que cette âme est absolument inséparable évidemment de son existé corporel, hein, dans l'humanité, et notamment il va le dire notamment dans des textes d'ailleurs sur quand est-ce que vient l'âme dans l'embryon. Il va être il est un des premiers à dire que c'est absolument direct, hein, à une époque où les choses ne sont pas exprimées de cette manière-là, y compris plus tardivement chez Thomas d'Aquin. Lui, il va y avoir cette dimension, hein, d'une animation absolument qui est liée à sa théologie, une animation absolument immédiate, hein, de l'embryon. Donc notre âme va se vivre, donc chair et corps, hein, nous vivons le fait d'être à l'image de Dieu dans un agir qui correspond à celui du Christ. Ça va jusque-là ? Voilà. Et donc, on pourrait dire, à travers ça, que l'image en nous, elle est déjà, dès le départ, hein, dans cette orientation vers cet agir divin. Donc, quand Dieu nous crée à l'image, à son image, on est créé dans cette image qu'est le Fils, donc c'est-à-dire dans cette orientation, dans cette capacité à aimer comme le Père aime et à rendre tout amour au Père. Et en même temps, la ressemblance, à l'intérieur de ça, ne devra pas vraiment être pensée comme une sorte de Dieu qui viendrait un peu de l'extérieur en nous, mais elle doit beaucoup plus être pensée dans un rapport en nous qui est le mystère de notre création et de la grâce que nous recevons. C'est-à-dire que plus nous avons l'image, et ça c'est absolument un donné qui est en partie, voilà, qui fait partie aussi d'un donné ontologique, nous avons cette orientation fondamentale vers Dieu, mais plus nous agissons comme Dieu, plus la grâce qui nous est toujours donnée, eh bien, agit en nous, se déploie en nous, et déploie en nous ce qu'on pourrait appeler être la ressemblance. Donc en gros, la ressemblance, c'est l'image, mais qui va de plus en plus vers son accomplissement en sa fin. Donc, c'est-à-dire le fait d'être de plus en plus saint, de plus en plus ressemblant à Dieu. Voilà. comme en fait j'ai déjà parlé pas mal, je me dis que je vais peut-être m'arrêter là.
C'est très beau, hein,
parce que voilà, mais bon, voilà, c'est un petit peu ce que
vous avez compris en fait, hein, non ?
On va peut-être
ce qui est s'abaisser, c'est cela qui est le plus beau. Quand vous exigez que quand le Fils s'incarne, il s'abaisse, et c'est là que c'est le plus divin, ça résout tout. C'est tout ce contraste qui fait que l'image, normalement, plus elle est expressive pour nous, et moins elle va être ressemblante de Dieu, tout ça se résout dans la charité. Enfin, je le crois, c'est ce que je crois. Il rigole, il est calme, en fait.
Non, mais parce que c'est très bien formulé. Non, mais il y a effectivement dans ce mystère donc intérieur aussi, donc ce mystère de l'image, hein, il y a le fait, enfin ce que tu dis que le ce qui nous est dit à travers la vie du Christ, c'est qu'effectivement l'image la plus parfaite de Dieu, hein, est celle qui non seulement descend dans l'incarnation, mais qui en plus voilà, est capable de descendre jusqu'à nous, hein, y compris ce qui marque l'humanité qui est le péché, et pourtant sans péché, hein, d'agir jusqu'au bout dans une humanité, parce que l'humanité que prend le Christ, elle n'est pas pécheresse, mais elle va être même marquée par le mystère du péché. Un des lieux de Gethsémanie, hein, ça va être que à Gethsémanie, dans une certaine mesure, on peut dire que c'est le moment où le Christ, qui est la vie, voit qu'il doit mourir pour nous sauver, en voulant le salut de tous les sauvés. Et donc, c'est à l'intérieur de sa volonté humaine, hein, que se vit un combat, parce qu'en lui, il y a la volonté la plus fondamentale en nous, qui est la volonté de vivre, puisque Dieu est la vie, donc ça aussi, ça participe du fait qu'on est image, qu'on reflète Dieu de manière ressemblante. Et en même temps, il va entrer dans cette volonté du Père, hein, dans une manière d'agir plus profonde, il va comprendre que pour être pleinement la vie, pour être la vie jusqu'au bout, y compris dans son humanité, il faut que la vie aille traverser la mort. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça nous dit quelque chose de notre propre agir, ça lance notre propre agir, notre vocation, le fait que nous sommes image de Dieu, mais dans cette capacité nous-mêmes à livrer ce que nous sommes jusqu'au bout.
Ça vous laisse quoi ? Non, est-ce qu'il y a des questions ? Ah ben voilà, il y a une question de Marie, une question d'Olivier. Vas-y Marie.
Vous avez dit, enfin, quand on dit que le Christ est l'image du Père, donc il exprime parfaitement tout ça, en fait ce qui change, donc c'est les trois personnes de la Trinité ont une même nature, une même substance, ce qui change du coup c'est simplement leur origine, c'est l'origine de l'image. Parce que vous avez dit qu'ils étaient pareils, mais au moins comme c'est l'image.
Alors en fait, c'est lié au mystère des personnes divines. Hein. Et donc chaque personne divine est entièrement la nature divine, hein. Il y a une seule nature divine, hein. Et après donc c'est les mots personne, hein, ça va être Augustin qui le systématise dans son emploi, et à un moment qui dit de manière très belle, il dit je dis trois personnes, mais parce qu'il faut bien que je dise quelque chose, hein. Donc le mot lui-même, on sait que c'est on cherche à exprimer un mystère en Dieu qui dépasse, hein, nos propres concepts, mais ce qui, à la fois les personnes sont absolument égales entre elles, chaque personne est entièrement Dieu, hein, mais ce qui est sûr, c'est que le Père, ce qui va distinguer le Père, c'est qu'il n'est pas engendré, hein, dans la Trinité. Il n'est pas, on peut dire que le Père est la source dans la Trinité, hein, le Fils va peut-être être plus l'expressivité intérieure à la Trinité, hein, le Fils va être... en tout cas, un des deux termes pour dire le Fils, un des deux mots les plus qu'on approprie au Fils, qui sont plus propres à la personne du Fils, ça va être d'un côté le Verbe, et ça c'est très accessible pour nous, hein, parce que Dieu crée le monde par sa parole. Il y a cette idée, hein, dans la manière là aussi de chercher à approcher le mystère de Dieu, que la parole elle va être l'expression de celui qui l'a proféré. Hein. Et un autre terme, le terme qui est un petit peu en vis-à-vis avec celui de verbe, ça va être celui de l'image, cette fois-ci pour dire cette parfaite ressemblance, cette parfaite égalité dans la manière d'exprimer. Ça va ?
On ne dit pas qu'esprit est image, par exemple.
Alors certains le disent, mais, chez Athanase, je crois qu'il le dit à certains moments.
Pour dire égalité en divinité, alors.
Voilà, parce que, et en fait c'est aussi, c'est pareil, ça c'est des termes qui se font au fil du temps. Athanase va faire ça, mais par exemple Basile, dans le traité de l'Esprit Saint, au contraire, du coup, jamais il va employer le terme d'image pour parler du Fils. Voilà. Bon, ça s'est fait, mais parce que les termes s'affinent au fil du temps. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il reste quelque chose de... J'ai pas l'impression de t'avoir vraiment éclairé.
Non, c'est
bon, alors autre question.
Olivier, oui.
Il y avait...
Alexis.
Oui.
Vas-y. Est-ce que du coup le fait que l'homme soit à l'image de Dieu, c'est conditionné par l'incarnation ? Est-ce que... parce que l'homme est à l'image de Dieu, parce que le Christ est l'image parfaite et que l'homme est selon le Christ. Mais du coup, j'ai l'impression que tout le monde dit que l'homme est selon le Christ uniquement par l'incarnation. Est-ce qu'une autre manière sur laquelle l'homme est à l'image de Dieu ? Ou est-ce que c'est vraiment conditionné par l'incarnation ?
Alors, je pense que dans une... Alors après, c'est des super bonnes questions. je pense que le... Il faudrait dire que dans la manière qu'a Dieu de créer, enfin dans le donné biblique, Dieu crée à l'homme à son image, d'emblée, il y a quelque chose qui est quand même pensé en vue, à la fois pensé dans le Fils et en vue de l'accomplissement de l'union de l'homme et de Dieu, dans leur communion profonde, en tout cas, se vit pour nous, dans les conditions que nous connaissons, par l'incarnation. Et donc, il y aurait... Donc, il y a, de ce point de vue-là, il y a une orientation, c'est sûr, qui ne se vivra pas pleinement en dehors du Christ, et en dehors du mystère du Christ. Maintenant, c'est vrai qu'une de mes questions, donc ça, je vous livre plus des questions qui sont un peu liées à ce que j'essaye de penser... même si les choses ne sont pas toujours très claires dans ma tête, comme vous avez pu le voir aussi, c'est que je suis frappé de voir que, malgré tout, bibliquement, c'est vrai que cette affirmation de l'image, on nous dit que Dieu crée par sa parole. Voilà. Et ça va être une dimension qui va permettre de dire de manière très facile la transcendance de Dieu. Hein. Dieu parle par une parole, mais... cette parole, dans une certaine mesure, elle est à la fois elle crée la création de rien, elle est vraiment, et ensuite Dieu va se révéler par sa parole, mais la parole va préserver une sorte d'écart, hein, ou de transcendance de Dieu même. Dans la Bible, en réalité, c'est vrai que l'image, elle est d'abord dite de l'homme. Enfin, ou plutôt, elle va être dite par Dieu. Mais au moment où il crée l'homme. Et donc, j'ai l'impression que dans le terme même d'image, mais là, Florent, tu peux à la fois me contredire, parce que c'est dans le terme même d'image, il y a quelque chose qui dit cette vocation à la communion que Dieu place directement. C'est-à-dire qu'il va le dire, ce terme-là va dire... quelque chose qui dit Dieu, puisque la première chose qui est dite, c'est faisons l'homme à notre image. Donc d'abord, il va parler d'une image en lui. Bon, puis en plus, il y a ce passage très mystérieux au pluriel dans la Genèse qui a été expliqué de diverses manières. Mais il va en parler d'abord pour lui, mais précisément au moment où il va justement créer une création qui est voilà, dont le propre justement est d'être lié à lui par création et pas d'être de toute éternité. Donc il y a pour moi dans cette idée même de l'image quelque chose qui vient en tout cas assumer plus immédiatement et plus directement le dessein de Dieu vers une communion avec l'homme. Voilà, je ne sais pas si c'est...
Spontanément, je dirais qu'il y a deux manières de prendre le problème. On peut dire, et je crois que c'est la ligne massive dans la tradition, de dire, puisque le Christ, à la fois par sa personne divine et par son humanité sans péché, il y a celle du Verbe, il mérite par excellence le terme d'image, Il nous aide à reformer ce qui a été déformé, et donc c'est massivement nous qui recevons de lui, en fait. Nous recevons même notre, peut-être de manière à l'état d'ébauche avant l'incarnation, mais nous tirons notre image du fait que nous recevons quelque chose du Christ. Par exemple, la grâce du salut, la divinisation. Mais il y a une autre ligne, alors il y aura un tout petit peu de ça dans l'épître aux Hébreux, mais au moment de la résurrection, et qui va complètement dans la ligne que tu nous as expliqué, c'est que de la part du Christ, il est vraiment... C'est par amour qu'il s'incarne. Et que c'est en cela qu'il est expressif de qui est Dieu, puisque Dieu est amour. En fait, vivre sa vie divine dans une nature humaine qu'il reçoit de nous, en fait, c'est sa grande joie. Et c'est tellement sa grande joie qu'à la limite, recevoir son statut d'image parfaite, de l'image imparfaite qu'est l'histoire du peuple d'Israël et de l'humanité, enfin quand même travaillée par Dieu, ça passe par la Vierge Marie, il n'y va pas à reculons en disant l'eau est trop froide. Hein. Vous voyez, si on saisit les choses dans l'amour, en fait, il y a vraiment une circularité et la joie, je pense vraiment qu'il y a une joie très très profonde de la part du Christ de recevoir ce qu'il a de toute éternité en recevant du Père. Il le reçoit dans la boue des routes de Galilée, à travers même nos péchés, c'est vraiment sa joie, et y compris le fait, dans ce sens-là, d'être image. Il faut vraiment tenir les deux, je pense qu'il faut tenir les deux, mais...
Excusez-moi.
Et ouais, je pense que vraiment, moi, ce que je retiens de ton exposé, la clé de tout ce que tu m'as fait comprendre, c'est que si on se contente de dire Dieu est la vérité, Dieu est l'absolu, Dieu est l'être, et puis par amour pour nous, parce qu'on est des pauvres types, qu'on est encombrés de péchés, tout ça, par amour pour nous, il s'incarne, on rend absolument incompréhensible le salut, et la doctrine de l'image s'effondre totalement. On reste privé, on reste prisonnier d'un schéma d'émanation et de dégradation de type plotinien. Alors que si on dit Dieu s'incarne par amour et il est lui-même amour, ce par quoi même il diffère de lui-même, en fait c'est encore une manière de lui ressembler. C'est ça qui est génial, c'est que c'est là où vraiment l'expressivité qui se mène, c'est d'autant plus expressif de ce qu'il est qu'il s'éloigne de lui-même dans la chair parce que c'est par amour en fait, et qu'il est l'amour.
Et c'est pour ça que je pense qu'en tout cas, une autre dimension, c'est que on voit bien, je me suis un petit peu embrouillé précisément à ce moment-là, mais dans la veine originienne, donc qui cherche à penser d'abord l'image invisible du Dieu invisible, c'est l'image. Mais c'est une image qui, par certains côtés, peut être tellement liée à une sorte de perfection philosophique qu'on voit plus très bien, en fait, on voit pas le gain. Enfin, on voit pas très bien pourquoi Dieu viendrait vers nous. Voilà. En revanche, il faut, dans une certaine mesure, c'est pas juste que quand le Christ... Il y a vraiment aussi la question de la manière d'être chair, hein, dans le fait d'être image. Et je crois que, c'est, pour le dire, c'est pas juste que nous... Pour vous dire un peu d'où je pars, c'est que tout ce que je vous ai montré, un peu ces quelques théologies patristiques de l'homme comme image de Dieu, dans une certaine mesure, l'Église n'a jamais dit « c'est celle-ci qui est la bonne » ou « c'est celle-là qui est la bonne ». Elle s'est jamais prononcée pour dire... c'est Maxime qu'il faut écouter, n'écoutez pas Origène ou n'écoutez qu'Irénée. Donc il y a un concert de choses qui sont dites sur ce que peut être l'homme en tant qu'image de Dieu. Et moi, là d'où je suis en train de partir actuellement, je ne sais pas très bien où ça va me mener, donc c'est pour ça que ça reste un peu incoatif, mais je préfère vous montrer. C'est que, en revanche, l'Église, elle se prononce sur une chose, c'est que l'homme a besoin de se faire des images. À partir du moment où le Christ est venu, et du mystère de l'incarnation, c'est pas juste une sorte de truc qui est pas grave de détruire les images. On se fait des images, on se donne des images, et ça veut dire que notre manière d'être, avec notre mystère charnel, eh bien nous vivons le fait d'être par le fait d'être sans cesse en fait des êtres traversés d'images. Voilà, vous et moi, quand nous vivons, quand nous existons, nous sommes en permanence traversés par les images les uns des autres. Et à travers le fait de se donner des images, de nous-mêmes nous donner des images du Christ, dans cette espèce de caractère presque un peu volontariste de l'Église qui se... je pense que se dégage peut-être une théologie de l'homme en tant qu'image. C'est-à-dire que Dieu lui-même est traversé par un mystère d'image, c'est-à-dire il est traversé par le fait qu'il se donne. Il est traversé par le fait qu'il s'exprime de manière absolument parfaite et totale dans un amour qui est totalement rendu. Et bien nous, nous sommes perpétuellement des êtres d'expressivité. Je ne peux pas être moi sans être jeté vers vous. Et vous ne pouvez pas être vous sans être jeté vers moi. Et donc en ça, nous vivons quelque chose de cet être-image. Et donc dans les bonnes images que nous allons nous donner ou dans les mauvaises images, ce qui nous permet de penser beaucoup de sujets de notre temps, la question des bonnes images qui nous traversent, la question aussi de tout ce qui est placardé partout dans les rues et qui nous impacte, parce que nous sommes faits aussi de nos images, nous sommes faits de ce que c'est que, y compris philosophiquement, d'exister. Notre chair, elle est une chair... je ne sais pas si elle est d'abord du côté de l'esprit qui animerait le corps, mais je ne pense pas. Voilà, il y a cette dimension biblique d'une unité absolue entre le mystère de l'esprit en nous, le mystère de l'âme et le mystère du corps. Et donc notre manière d'exister en cela, et notre manière même d'être chair, c'est justement de vivre d'image. Et il me semble que, pour encore revenir à ta question, c'est que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, l'image elle est déjà en Dieu. Donc cette manière de projeter l'homme à son image, il y a quand même déjà une manière de commencer à se mirer dans autre chose, de se créer une autre louange, que la louange purement divine, et d'y voir un projet extraordinaire. Donc c'est
très très beau. Malheureusement, il va falloir s'arrêter, mais vraiment magnifique.
Désolé.
Merci. Ça donne plein de trucs. Vous avez pensé au rôle de l'affectivité dans la vie spirituelle. Pourquoi est-ce que quand on voit un pauvre, si on a le cœur brisé, il y a quelque chose de profondément divin. Je pense que
Oui.
Allez, on dit les complices, vous avez des questions après les complices, il faut aller embêter Maxime.
Et donc, il y a quelques bouquins éventuellement que vous pouvez regarder, dont un très bon bouquin que j'ai essayé en fait un peu trop de vous résumer, parce que qui est une thèse sur Maxime Richesse, excellente. Voilà, c'est un disciple de Richesse.
Ah oui,
voilà, une thèse sur Maxime le Confesseur. Ça, c'est un résumé de la patristie. Ça, c'est le transcendantalisme. Voilà. Et ça, c'est pour celui qui m'a déjà posé une question sur Dieu artiste et l'homme créateur.